Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, voici le sommaire de notre grand hebdo de Chut, on écoute la télé avec aujourd'hui notre spécial Seul qui sera diffusé ce soir sur France 2. À cette occasion, Samuel Le Bihan débarque avec nous dans une poignée de secondes et on aura également le plaisir de recevoir Pierre Izoard, le réalisateur. Nos coups de cœur télé qui continuent bien sûr aussi avec la série Murder Club. On va parler de la musique avec Johan Kirescu et Léa Castel qui est une des finalistes de Popstar. Elle se met avec Johan justement à la musique de films et de séries. Elle va nous expliquer comment, bien évidemment. Et puis, on va parler également aussi de la série Dans l'ombre avec Baptiste Carion-Weiss qu'on a reçu il y a quelques semaines justement pour la série Enjoy. Il revient et ce coup-ci avec Clara Antons qui joue la fille de Candice Renoir et qui joue également donc la fille de Paul Francoeur dans la série. On va parler aussi de Sentinelle Ukraine avec Pauline Parigot qui va venir nous rejoindre. Et puis, c'est notre grand coup de cœur ciné cette semaine. Le nouveau film de Claude Lelouch, c'est l'événement, puisque nous allons avoir l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Claude Lelouch et Kad Merad qui seront avec nous. Et puis en fin d'émission, on terminera avec Christelle Oscar à la veille du lancement de la 33e édition du Festival du film de Sarlat. La directrice artistique sera notre invitée pour nous donner les premières infos. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui. Dans Chut, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Seul débarque sur France Télévisions. Samuel Le Bihan retrouve son complice d'Alex Hugo, Pierre Izoard, puisqu'il y joue le rôle justement du récit d'Yves Parlier. C'est l'adaptation de ce récit, Samuel. Je crois que ce tournage a été dantesque et surtout un grand moment. Et c'est quelque chose que tu travaillais avec Pierre depuis un sacré bout de temps maintenant.
Oui, ce tournage était complètement fou parce qu'on a... On a vraiment vécu des moments de haute mer et on cherchait les différents temps, tempête, gros vent, calme plein pour reprendre tous les moments que vivait ce navigateur. Mais chaque plan était un défi à la nature, aux éléments, à la capacité à s'organiser pour jouer. C'était complètement dingue, c'était une expérience extrêmement puissante. Et c'est vrai que Pierre, on se connaît bien parce qu'on s'est rencontré sur les Alex Hugo. Qu'il a fait pour moi les Alex Hugo pour lesquels j'ai une émotion profonde et ceux que peut-être parmi ceux que je préfère. Et on parlait de ce livre, on disait mais t'as lu ça quand même, c'est complètement fou. Et puis on parlait des anecdotes de ce qu'avait traversé Yves Parlier et on disait que ce serait un super film mais que c'est très compliqué à monter. Et puis un jour il me dit non mais j'ai vraiment envie d'y aller quoi. Et donc je suis allé voir France Télé, j'ai réussi à négocier qu'on ait de l'argent pour écrire et puis ensuite qu'ils acceptent de le faire en production, parce que personne n'y croit, ils disent, mais vous y arriverez pas, partez sur un bateau, on va pas vous donner de l'argent, si vous, C'est-à-dire, le danger, c'est de rien ramener, pas ramener de film. On peut perdre la caméra, on peut avoir un accident, on peut ne pas réussir à tourner. Enfin, c'était une complexité dingue. Et ils nous ont fait confiance, et ils ont eu raison, parce que c'est un film assez fort émotionnellement. Et ce qui est bien, c'est que moi, je vais pouvoir proposer quelque chose de beau au public. C'est-à-dire que on a créé des temps forts avec Alex Hugo. Ensuite, avec Pierre, on a fait un film sur l'autisme qui s'appelait T'en fais pas, je suis là. Ça m'a permis de développer aussi d'autres choses sur ce combat de l'autisme. Donc, Tu ne tueras point, qui est passé l'année dernière. Et là, seul, ça participe encore à sortir de sa zone de confort, faire des propositions fortes aux spectateurs, c'est-à-dire aller chercher dans le métier d'acteur plus de périls, plus de mise en danger, chercher de l'émotion. Donc c'est un beau voyage artistiquement et humainement que de faire tout ça.
Malgré tout, c'est un peu toi qui l'as poussé quand même. J'ai l'impression, Pierre, qui a été un peu l'instigateur avec la scénariste, qui ont vraiment été les instigateurs un peu du projet, qui l'ont poussé un peu, Pierre, à aller vers là. Il avait peut-être des réticences aussi.
Pierre en avait très très envie, mais il en avait très peur aussi.
De toute façon, un tournage en mer, je crois que c'est ce qu'il y a de pire.
Oui, un tournage en mer, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'on vous dit tout le temps. Si vous voulez, le tournage le plus catastrophe qu'on puisse faire, c'est sur la mer. Parce que il vous faut des bateaux d'assistance, il faut tout un tas de matériel. Enfin, on déploie une quantité de structures et puis le temps n'est jamais le même. Enfin, ça se passe très mal. Nous, on a décidé de faire une équipe extrêmement légère et de partir caméra au point sur la mer et de rapporter les images. Donc ça voulait dire pour moi connaître le texte par cœur, tout le film par cœur. Parce que les seuls moments de dialogue, c'est quand il est à la radio. Et quand il est à la radio, ben j'avais personne, hein, l'autre bout du fil. Donc il fallait que je connaisse le scénario. On pouvait jouer n'importe quelle scène à n'importe quel moment. Ça pouvait changer à tout moment.
Parce qu'il y a un langage à part, il y a tout plein de choses hein, à jouer dans ce genre de contexte.
C'était fonction de la météo aussi. Donc on adaptait en fonction du temps, de ce qu'on pouvait tourner. Pousser Pierre, non, il était moteur quand même. C'est-à-dire que il le disait peu, mais il en avait tellement envie que nous, on sentait que derrière, il serait extrêmement inspiré. Les premiers pas, j'ai réussi, c'est moi qui ai été négocié chez France Télé, mais ça a marché, ça a pris, on a réussi pas à pas à créer la confiance. Et Pierre, derrière, je pense, je sentais qu'il allait me faire vivre quelque chose d'assez incroyable et d'unique. Donc j'avais envie de vivre ce moment. Et je savais que c'était la bonne personne pour le faire.
Sortir de ta zone de confort, c'est ce que tu disais, Samuel. Là, faut un comédien tout terrain. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de loge, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il y a un confort qui est spartiate. Il faut s'adapter à ces conditions-là qui sont quand même très rudimentaires. Et n'importe quel comédien ne peut pas forcément s'adapter à ça.
Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'un jour, vous êtes en train de vous rouler dans la boue, là, vous jouez un clochard. Et le lendemain, vous êtes en train de monter les marches de Cannes et vous êtes en smoking. Je crois que c'est ce paradoxe qui est intéressant. Et donc, d'aller chercher, parce que là, effectivement, c'était à la rude. C'était vraiment dur, hein. Vraiment extrêmement épuisant. Et puis là, il n'y a pas de loge, vous changez devant tout le monde, vous êtes en train de faire vos raccords, donc il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait rien. J'avais juste des raccords de barbe, parce que ça se passe sur 3 mois, ils se rasent pas, donc il fallait une grande barbe, des fois une petite, une moyenne. Donc je faisais mes changements de barbe. que j'arrivais plus à la coller, enfin, parce qu'on se retrouvait avec les tempêtes des fois, impossible de coller la barbe qui se décollait. Mais et puis pareil, quand vous faites vos besoins, ben c'est vous accrocher au bateau, hein, alors personne vous voit, mais voilà, il y a un moment, il y a une intimité qui se crée, hein, faut passer outre, faut vivre comme un marin, en fait, on vivait comme des marins.
Comment réagit Yves Parguet quand il l'a vu la première fois?
Alors c'est intéressant parce que Yves n'est pas venu sur le tournage, je l'ai pas eu au téléphone avant, et tant mieux parce que ça m'aurait impressionné et ça m'aurait gêné dans
le jeu.
Oui, parce que j'ai créé un personnage, et un personnage que je rencontre et que j'interprète. Si je vois le vrai, en fait ça peut me couper tous mes moyens, me dire mais j'y arriverai jamais, je ressemble pas, enfin, me créer des complexes en fait. Et en travaillant tout seul, j'arrivais à prendre ce qui m'était intéressant pour le créer et à évacuer sur les points sur lesquels j'aurais pu avoir des complexes. Et donc cette pudeur de sa part m'a beaucoup aidé, et il a vu le film et il me dit, il a été extrêmement ému de revivre, il a vraiment le sentiment de revivre ce qu'il avait vécu, ça l'a beaucoup ému. Donc il a réussi à se voir à travers le personnage que je faisais, et il a complètement validé ce qu'on a fait en voyant qu'on avait fait des petits écarts, parce que pour la narration, pour le film, on est obligé de faire des petits aménagements. Mais ça, il l'a tout à fait compris. Il a trouvé ça extra. Il a trouvé ça très juste et très honnête par rapport à ce qu'il a vécu. Mais moi, en discutant avec lui, c'est même encore plus violent. Ce qu'il a vécu, en termes de douleur physique, morale, psychologique, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on a mis dans le film. J'ai compris, il a vraiment failli mourir plusieurs fois, quoi. Donc nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du dépassement de soi, de l'engagement, un homme qui veut pas lâcher, qui refuse d'abandonner, qui va jusqu'au bout, parce que il y a des sponsors qui ont cru en lui, parce que sa famille a cru en lui, parce que il veut pas arrêter la course, il veut pas abandonner, sinon ce serait au fond de lui encore un abandon de ce qu'il est profondément. Donc il refuse cet échec, donc il sait qu'il ne gagnera pas, et c'est ça qui est beau. Le mec sait qu'il ne gagnera pas, mais il va. Son enjeu, c'est d'aller au bout de la course. Et donc ça, c'est fort, c'est beau, c'est majestueux. C'est juste pour la beauté du geste. Et il va être prêt à y laisser sa vie pour aller au bout de son engagement. Et c'est très chargé en émotions, en fait.
Ce qui est chouette là, c'est qu'on va voir un film de télévision, un grand spectacle, aurait pu être aussi sur un écran de cinéma. Et d'ailleurs, t'as pu le présenter sur des grands écrans. Et où tu as été jury au Festival d'Angoulême. Tu étais venu présenter Gueule Noire aussi l'année d'avant. Et il faut dire que La Frontière, et tu en es un exemple pour le coup vivant, la frontière entre le cinéma et la télévision, que ce soit en qualité, que ce soit en image, que ce soit pour les comédiens, est de plus en plus mince.
Oui, alors ce qui diffère quand même, c'est qu'en télé, on a moins de moyens. Donc il faut aller plus vite. On a moins de temps. Par contre, on peut être aussi audacieux. En fait,
et créatif.
Et créatif, si l'équipe... En tout cas, la télé aujourd'hui nous permet d'être créatif. Avant, c'est... Alors, ça l'est encore un peu, mais c'est très codifié. La narration télé est très codifiée, parce que on bouscule pas trop le spectateur. Mais de plus en plus, surtout avec les plateformes, on arrive avec des séries un peu différentes, d'autres points de vue. On re-questionne, on a même des séries en noir et blanc, enfin, on re-questionne le principe de la narration, et on a fait la part belle aux scénaristes. Et donc... aujourd'hui, et donc ça déteint sur la télé, même les chaînes les plus traditionnelles comme je dirais TF1 et France Télé, hein, mais qui sont prêtes à prendre des risques, à tenter des choses avec leur public, voir jusqu'où le public est prêt à suivre sur des choses audacieuses. Et donc nous, les comédiens, on a aussi des rôles qui nous demandent un engagement et une prise de risque qui est comparable à celle du cinéma aujourd'hui. Ouais.
Et puis il faut dire, en termes d'audace, Alex Hugo était déjà une série hyper audacieuse, tournée en haute montagne comme ça, régulièrement avec 3-4 épisodes par moment par an, il y a eu pendant un certain temps. L'audace allait aussi sur Alex Hugo, j'imagine que la série continue.
Oui, tout à fait, la série continue parce qu'il y a peu d'épisodes, on en fait 2 ou 3 par an, pas plus. La prise de risque au début, c'est qu'on n'était pas du tout dans les codes de ce qui se faisait qui était à la mode. Il fallait du 55 minutes, nous on faisait du 1h30. Il fallait du rythme très rapide, nous on était plutôt contemplatif. On est allé au bout de notre idée. On est allé au bout de ce qui nous semblait juste en termes de narration de ce personnage un peu atypique, proche de la nature. Un homme blessé qui a besoin de se reconstituer dans... Il se sert des éléments naturels pour se reconstruire. Et là, ce qui est beau, c'est que ça a connecté avec le public. Pour plein de questionnements qu'on a aujourd'hui, hein, sur l'environnement, sur la question de la liberté, sur la question de la justice, Alex Hugo, il véhicule toutes ces valeurs-là. Et il pose les questions de la justice, il pose les questions de la nature, il pose de la relation à la nature, de la relation à la liberté.
Le résultat avec le capitaine Marlowe, c'est les deux plus grosses audiences de France Télévisions. Ça, c'est beau.
Ça, c'est un cadeau. Un succès, c'est un cadeau. Vous ne le maîtrisez pas. Des fois, il y a des échecs qui sont pas justes non plus. Je crois que c'est grâce à un ensemble. C'est pas grâce à une particulière. Alors, c'est sûrement grâce à la montagne, grâce au fait que je suis à ma place, que la productrice a fait un bon travail en trouvant les bons auteurs, les bons réalisateurs. C'est un ensemble. En tout cas, on a toujours une volonté d'exigence. Au lieu de nous mettre dans un confort, ce succès nous a mis dans une exigence. Parce qu'on veut pas décevoir le public, donc on cherche toujours à se renouveler et à faire des propositions en allant un peu plus loin. Comment se renouveler, qu'est-ce qu'on peut proposer de plus particulier? Et on y arrive, c'est ça qui est étonnant. Les scénaristes ont des idées folles en permanence. C'est pas redondant, c'est ça qui est formidable.
Ouais. C'est un des plus gros succès, on le disait. En attendant, on va découvrir Seul sur France 2. Et tu vas pas être seul, hein. Tu vas être accompagné de millions de téléspectateurs, j'en suis sûr en tout cas, mon cher Samuel. On te dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, hein. Tu le sais, on est à tes côtés. On est là pour toi. À bientôt.
Merci, à bientôt, à très vite.
C'est Vendée Globe ou La Croisière s'amuse ?
Novembre 2020, une incroyable odyssée d'après l'histoire vraie d'Yves Parlier.
J'ai pas besoin d'assistance, j'ai pas fini ma course, je continue.
Yves, réponds-moi, je t'en prie.
Seul, avec Samuel Le Bihan, bientôt sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Allez, on continue à parler de Sol. C'est ce soir sur France 2, le rendez-vous événement de France Télévisions. Pierre Izoard nous rejoint, le réalisateur de ce très beau film. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on était avec Samuel il y a quelques instants. C'est vrai qu'on parlait d'un véritable film de mer. Quand on est aujourd'hui réalisateur, qu'on se dit qu'on va tourner beaucoup de scènes en mer, là, qu'on se dit, est-ce qu'on appréhende ou c'est un véritable challenge? Toi qui es habitué à la montagne.
Oui, c'est un véritable challenge et on appréhende beaucoup. Avant de démarrer, j'apprenais beaucoup parce que pour nous, tourner sur la mer, c'est ce qui est le plus compliqué, vraiment de très très loin. Je dis souvent que même le grand Steven Spielberg, après Les Dents de la Mer, s'est juré de ne plus jamais retourner sur l'eau. Donc non, on ne faisait pas les malins avant de partir.
J'imagine. C'était tourné où, pour le coup, au niveau géographique?
Alors dans deux endroits, au Sable d'Olonne. Enfin, sur l'Atlantique, hein, évidemment, on allait assez loin en mer, hein, puisqu'il ne fallait pas qu'on voie la terre. Et puis, une deuxième partie qui s'est faite dans un bras de mer vers l'Orient.
D'accord, en Bretagne. Ça fait bien Nouvelle-Zélande, finalement, à cet endroit-là.
Ah ben, ça fait très très bien Nouvelle-Zélande, et je peux vous le garantir, parce que le photographe de Paris Match de l'époque, qui était donc en Nouvelle-Zélande, habite à l'Orient et est venu sur le tournage. Et quand il a vu le bateau et le décor, il a dit « on y est ». Donc, on y était.
C'est ça qui est génial. Comment on arrive à décider, Yves Parlier, d'adapter son film, d'adapter son livre plutôt en film comme ça?
Alors c'est un petit miracle. Moi, j'avais suivi son histoire en 2000 à la radio parce qu'il y avait très peu d'images à l'époque. Et je m'étais toujours dit que ça ferait un film fantastique, mais je me disais que c'était pour Hollywood. Et puis petit à petit, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré Samuel, je lui ai parlé du projet, il était emballé. J'ai rencontré mon scénariste avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui était aussi emballé. Je suis allé voir un ami qui est producteur de cinéma, qui avait très envie de faire ce film. Donc les choses sont un petit peu construites comme ça. Et Yves Parlier, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait il a toujours refusé. Je suis pas le premier à vouloir adapter son histoire et il a toujours refusé. Il était pas prêt. Et moi je suis arrivé 20 ans plus tard et il était prêt. Et voilà, il nous a vendu ses droits, les droits du bouquin. Et voilà, c'était un très bon partenaire. Voilà.
C'est assez dingue, il y a des scènes de tempête qui sont folles. Aujourd'hui, on a vu ça au cinéma, on a vu ça dans Flo, mais à la télévision aujourd'hui, avec le budget qu'on connaît aujourd'hui télé, comment on arrive à trouver des parades pour arriver à rentrer dans un budget télé?
Alors c'est très compliqué, mais il faut être très créatif et j'avoue que...
Vous parliez sur son bateau finalement?
Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, faut se débrouiller. Et j'ai un producteur qui est très, très créatif. Et on a beaucoup cherché. Hein, on savait pas. Évidemment, le premier réflexe, on est allé en Belgique dans ces studios fantastiques qui sont des espèces d'énormes piscines. Et il suffit qu'on appuie sur un bouton et on a la vague qu'on veut. Donc oui, on pensait ça au départ. Et puis quand on a vu le coup, on s'est dit, ça va pas être possible. En mer, c'était impossible, évidemment, injouable, surtout que c'est une scène qui se passe de nuit, voilà. Et en fait, on a trouvé les bases de sous-marins de l'Orient, qui sont des espèces de grands garages à sous-marins. Et on a fait venir toute une pyrotechnie, c'est comme ça qu'on a fait, voilà.
Alors, c'est assez dingue, on verrait le rendu, en tout cas, et explosif, hein, c'est le cas de le dire. Beaucoup de scènes seules aussi, de Samuel, avec une équipe technique réduite, j'imagine, sur le bateau. Comment on vit tous ces moments, des fois, de doute, seul, en mer, dans des conditions de tournage, on va dire presque extrêmes?
Oui, et en même temps, c'est ce qui nous a permis de tourner le film et je crois que c'est l'énergie, la sincérité qui se retrouve à l'image. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans une configuration classique. On était 7, moi compris, donc 6 techniciens, et c'est tout. Donc pas de script, pas de maquillage, pas de coiffeur. Bien sûr, beaucoup de monde à terre pour préparer, mais sur le bateau, toute petite équipe et chacun faisait 3 ou 4 postes. Et ça paraît fou comme ça, mais ça nous a donné une énorme liberté en fait. Et donc voilà, on était encombrés par personne, il n'y avait pas d'inertie. Et moi, je savais pas trop si j'allais pouvoir dominer les événements, la nature, la mer. Et dès que j'ai tourné le premier plan, j'ai su que j'allais pouvoir faire le film que je voulais.
Toi qui es habitué plutôt à la montagne, t'as fait beaucoup d'Alex Hugo avec justement Samuel. On est dans deux univers aux antipodes.
Oui, mais en fait, c'est encore un personnage face à la nature. Et moi, ça se passe. Enfin, ce que j'aimais bien dans ce projet, c'est que c'est une très très belle allégorie par rapport à la société. C'est-à-dire que vous avez un type féru de technologie qui ne pense qu'à gagner et d'être le meilleur et d'aller toujours plus vite. Et puis finalement, la nature lui met une grosse claque dans la figure et il ne sait pas pêcher un poisson. Et donc il y a une belle remise en cause, et c'est un petit peu ce qui se passe dans notre monde. On est toujours en train de courir et puis la nature va nous le faire payer très cher. Donc voilà, j'aimais bien ce sujet-là. Et puis j'aimais bien l'idée de tourner un huis clos dans une immensité pareille. Je trouvais qu'il y avait un contraste intéressant d'être prisonnier sur une toute petite surface, un bateau, sur une mer qui s'étend à l'infini. C'est ce qui m'a vraiment, vraiment excité dans ce projet-là.
Yves Parlier a pu le voir, qu'est-ce qu'il t'a dit, s'il l'a vu ?
À chaque fois qu'il le voit, il pleure. Donc, il est très ému. Évidemment, il y a des petits ajustements que j'ai fait par rapport à son histoire. Moi, je me suis emparé de l'histoire et j'ai raconté l'histoire d'un personnage avec un parcours. Lui a plus de pudeur, mais il est très très content du film, très heureux du film.
Il arrive. En tout cas, vous allez pouvoir découvrir seul sur France 2 et regardez-le en famille. Vous allez voir, c'est un film, un grand spectacle que vous allez pouvoir découvrir de Pierre Izoard. Et puis, on te retrouve bientôt, en tout cas aussi avec Samuel, justement, et Julien Guérif pour parler de Carpe Diem, nouvelle série pour TF1. Là, on est dans de la comédie pure et dure.
Absolument rien à voir, de la comédie vraiment, on va dire, de la comédie de qualité populaire française.
Nouvelle série de 6 fois 52 minutes, on t'attend évidemment pour revenir en parler très bientôt. Pierre, on ne se quitte pas cette année, j'ai l'impression.
Absolument.
À bientôt.
Merci.
C'est Vendée Globe ou La Croisière s'amuse ?
Novembre 2020, une incroyable odyssée d'après l'histoire vraie d'Yves Parlier.
J'ai pas besoin d'assistance, j'ai pas fini ma course, je continue.
Yves, réponds-moi, je t'en prie.
Seul, avec Samuel Le Bihan, bientôt sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Allez, du beau monde qui arrive dans un instant. On va parler de Murder Club, on va parler à nouveau de la série Dans l'ombre, on va parler de Sentinelle Ukraine, de la sortie du film finalement, et Claude Lelouch et Kadmerad, et Christelle Oscar, la directrice artistique du Festival de Sarlat, également sera avec nous en fin d'émission. Alors à tout de suite, bougez pas.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
K.O. En une heure à peine, tu m'as mis K.O. Je vais quitter la scène, étendre le studio. Mais qui me relève quand c'est toi qui m'achève? Sortez-moi de ce mauvais rêve. Non mais allô, c'est trop facile quitter comme ça le bateau. Et toutes nos promesses, les foutre à l'eau. Je viendrai te chercher à la nage, reconnaîtrai ton visage, même si ton cœur fait naufrage. Tu sais quoi, je vais arracher tout ce qui parle de toi. J'apprendrai même si c'est pas mon choix. Ouais, t'as tout niqué cette fois. Souviens-toi, ta personne préférée c'est t'aimes-moi. Même sur cette chanson j'entends ta voix, mais je peux plus y croire pour toi. J'ai pas envie d'avoir 30 ans sans toi. J'ai pas envie de dire aux gens tout ça. Si c'est pas nous, moi j'ai pas d'autres plans. Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? J'ai pas envie qu'on me dise que ça passera. Il faudra bien guérir du mal de toi. Mais dis comment trouver le médicament. Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? Je voudrais rallumer ta flamme, nous faire cramer de bonheur. Mon électrocardiogramme bat en fonction de ton cœur. Je voudrais créer un hologramme pour retrouver ton odeur. Mais je peux passer ça le drame, t'es ma 404 erreur. Tu dis que je suis rien qu'une enfant, mais on voulait deux enfants. On avait déjà leur prénom. Je voulais voir ton ventre rond. T'aurais recoupé ta frange et mélangé nos phalanges. T'aurais offert mes deux reins et même après tu te souviens. Tu sais quoi, je vais arracher tout ce qui parle de toi. J'apprendrai même si c'est pas mon choix. Ouais, t'as tout niqué cette fois. J'ai pas envie d'avoir 30 ans sans toi. J'ai pas envie de dire aux gens tout ça. Si c'est pas nous, moi j'ai pas d'autres plans. Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? J'ai pas envie qu'on me dise que ça passera. Il faudra bien guérir du mal de toi. Comment trouver le médicament? Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? Oh, t'as sali notre amour pour une putain de sorcière. Tu te rendras bien compte un jour que t'as tout foutu en l'air. Mon cœur qui va le recoudre, j'ai brûlé ta marinière. On avait eu un coup de foudre, t'es parti en un éclair. J'espère que tu penses à moi quand tu te perds dans son corps. Cette conne ne connaîtra pas le vrai toi qui valait de l'or. Et quand tu vas décaper ton petit cœur avec du chlore, c'est mon reflet que tu verras dans une piscine de remords.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à nouveau cette semaine à Sentinelle Ukraine, dont vous allez pouvoir découvrir la suite demain soir sur Ciné Plus OCS. On va découvrir les épisodes 3 et 4 et après Louis Pérez la semaine dernière. Eh bien, c'est Pauline Parigot qui nous rejoint. Bonjour Pauline.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, Pauline, qui joue le rôle d'Anaïs Collet, où il s'est passé déjà plein de choses sur les deux premiers épisodes. On a vu que t'étais coincée dans un hôpital en Ukraine avec une GPA, et puis on va voir comment effectivement ces personnages avec celui de Julien vont se rassembler. Un tournage difficile, nous disait par exemple, oui, la semaine dernière, éprouvant, avec le froid, avec en plus la réalité qui rejoint la fiction. Enfin, c'est des conditions, et je disais, une série hyper ambitieuse, hein, Sentinelle.
Hyper exigeante en tout cas, qui nous place au bon endroit aussi au niveau du travail. C'est pas un projet dans lequel on arrive les mains dans les poches.
Qu'est-ce que tu dirais sur ton personnage? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'Anaïs, qu'on retrouve pour cette deuxième saison après l'opération Mali?
Eh bien, Anaïs, dans cette saison-là, elle est vraiment en proie à ses pulsions. C'est-à-dire que cette fois-ci, je porte pas l'uniforme de l'armée, mais je suis entourée de mon amoureuse. Donc, ce qui peut me permettre aussi d'être à la fois plus féminine, peut-être plus douce, un peu plus humaine que dans la saison 1. Et en même temps, il y a quelque chose de plus sombre chez elle qui va se déclarer au fur et à mesure de la série, qui est une envie d'action et effectivement un attrait pour le danger. C'est ça qui est génial quand on a la possibilité de développer un personnage sur le long terme, c'est que après avoir offert une présentation des caractéristiques généraux du personnage, on peut rentrer dans les paradoxes de l'être humain. Et là, c'est mon moment préféré, parce que même moi, je me surprends et je m'autorise à ne pas savoir le fond de ma spontanéité et de mes actions. Et il y a quelque chose de très inconscient qui se joue chez Anaïs, qui est quelqu'un, en tout cas, qui a une force d'engagement à la fois dans l'amour et à la fois dans l'armée, mais qui vrille un peu tête brûlée quand même là dans les prochains épisodes.
On a découvert quand même dans les deux premiers épisodes que elle n'était pas seule dans cet hôpital. Il y a même un ministre sous couverture qui, lui, veut essayer de passer inaperçu. Elle a été la première à le reconnaître en attendant.
Ouais, parce que Anaïs Collet donc est homosexuelle, et je pense que c'est un ministre qui a des déclarations assez homophobes.
On retrouve là pour la même chose. C'est ça qui est assez dingue.
Et qui officiellement, aux yeux du public, critique la GPA, et qui pourtant dans la réalité en fait une au même titre que Anaïs et son amoureuse Yael.
C'est une rebelle un peu quand même, Anaïs.
Ouais, elle va au bout de ses convictions. Ça c'est vrai.
Et c'est ça qui est chouette. Qu'est-ce qui t'a plu en premier dans cette aventure Sentinelle? Je te parle pas de l'Ukraine forcément, mais de façon plus large depuis le début avec le Mali notamment pour la première collection.
Bah, de jouer le rôle d'un lieutenant, d'aller un peu à l'encontre peut-être de ce que je peux dégager dans la vie de tous les jours. Je pense que je suis quelqu'un d'assez souriante, assez inoffensive, voilà. Et c'était extraordinaire pour moi de développer un personnage qui ne faisait rien pour être aimable, qui était archi carré alors que moi je suis totalement bordélique, qui était totalement intransigeante vis-à-vis d'elle-même. Donc moi, ça a permis de développer un autre panel dans mon jeu de comédienne que j'avais jamais exploré jusque-là. Donc c'était un énorme cadeau que m'a fait Jean-Philippe Amar en m'offrant le rôle d'Anaïs Collet.
Même question qu'à Louis la semaine dernière. Si tu devais te projeter en avant dans 10 ans et qu'on te reparle de Sentinelle, est-ce qu'il y a un souvenir qui remontera en priorité, en premier, et tu te diras, ah oui, Sentinelle, oui, c'était ça aussi, j'ai vécu ça.
Spontanément, je te parlerai de Anastasia, qui est une réfugiée ukrainienne, une comédienne qui était sur la série, qui joue une des mères porteuses avec laquelle je me suis liée d'amitié. Et forcément, j'ai été hyper touchée par son parcours d'artiste, qui essayait du coup de créer sa vie en Lituanie alors qu'elle avait à la fois rien à faire là, donc qui hésitait aussi à aller peut-être en Allemagne ou en France, mais qui était paumée sur où construire sa vie maintenant que le conflit en Ukraine allait prendre apparemment plusieurs années, et qui était loin de sa famille, et du coup voilà, pour moi Sentinelle Ukraine, c'est la rencontre avec Anastasia.
Demain, épisode 3 et 4, mardi prochain, ça sera le grand dénouement. Il va se passer plein de choses, je peux vous le dire. Restez bien en tout cas jusqu'au bout pour découvrir cette série. Ça s'appelle Sentinelle Ukraine. Vous avez déjà, si vous avez raté les deux premiers épisodes, ils sont disponibles sur MyCanal, section CS bien sûr. Pauline, on va te souhaiter plein de belles choses. On est fin octobre, début novembre avec cette histoire de lancement d'épisodes. Est-ce que tu as des projets qui arrivent là, d'ici la fin de l'année ou début 2025, qui t'attendent, dans lesquels on va pouvoir te retrouver en cinéma, théâtre ou télévision?
Ouais, je suis dans la prochaine série de Nicolas Maury qui va passer sur Arte, qu'on tourne le mois prochain.
Génial. Merci beaucoup Pauline d'avoir été avec nous.
Je vous en prie.
Et on va se quitter avec un extrait. Sentinelle Ukraine, c'est demain soir sur Ciné Plus OCS.
Les Russes sont en train d'attaquer l'Ukraine.
Montez dans vos voitures.
C'est la guerre, donc prenez le strict nécessaire et montez dans ce putain de van.
On part pas sans les bébés.
Pourquoi on va pas les chercher tout simplement?
Vous voulez déclarer la guerre à la Russie, le fort?
On est dans la putain de campagne ukrainienne, y a rien, qu'est-ce qu'on peut faire?
Le lieutenant Collet est quelque part dans le Donbass en train d'essayer d'en sortir.
Si on apprend que je suis ici pour faire une GPA, ma carrière politique est terminée.
Et on continue à parler de Murder Club sur M6, votre mini-série avec Tiffaine Davio et Eric Cantona, Vinnie Dargo, Catherine Osmalin. Vous avez découvert les deux premiers épisodes. La semaine dernière, on va continuer à en parler. On va parler musique ce coup-ci, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de mettre à l'honneur la musique. Et avec Johan Kirescu qui est avec nous. Bonjour Johan.
Bonjour.
Et autant vous dire qu'elle a été finaliste il y a 17 ans dans Popstar. Et je suis très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui pour parler justement de la musique sur une série, de son travail là-dessus. Léa Castel est notre invitée. Bonjour Léa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, il y a Roue Libre qui est sorti ton album en 2021, il y a maintenant 3 ans. Comment on passe justement d'aller faire un album pour soi, à aller faire la musique pour une série? Est-ce que c'est une nouvelle corde à ton arc déjà pour toi? Et comment ça s'est passé entre vous deux justement cette rencontre?
Alors déjà avec Johan, ça fait presque 10 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Et d'ailleurs, il a réalisé, on a réalisé ensemble l'album Roue Libre que j'ai sorti il y a 3 ans. Et moi j'ai toujours eu cette envie de faire de la musique à l'image. J'ai eu un coup de chance et Johan aussi adore ça. Et du coup, on a eu des opportunités. Moi j'en avais une il y a quelques années avec Pattaya, le film de Franck Gastambide, où j'avais pu faire 17.
Avec un Malik Bentall en pleine forme, si je me souviens bien.
C'est ça, j'avais pu faire une dizaine de minutes, donc des petites séquences émotions. Il n'y en avait pas beaucoup parce que c'était plutôt drôle, mais on avait réussi à faire quelques séquences émotions, plus une synchro d'un morceau à moi, et j'avais adoré. J'avais aussi fait une pub pour Nike avec Sabrina Ouazani, donc j'avais fait un peu de musique à l'image et un peu de synchro. C'était mon rêve. C'était un peu compliqué d'ouvrir des portes là-dessus, parce que quand on est chanteuse, on est chanteuse, on n'est pas autre chose, donc il faut faire ses preuves, et grâce à Johan et son talent et notre fusion à tous les deux, on a réussi à les ouvrir, et surtout grâce à Renaud qui est le réalisateur, qui nous a fait confiance sur ses projets et qu'on essaie de ne pas décevoir, évidemment. Et voilà.
Johan, comment on travaille une bande-son? Est-ce qu'on attend d'avoir les rushs, d'avoir l'image, ou est-ce qu'on la travaille avant, rien qu'à la lecture du scénario? Comment ça se passe?
C'est très particulier. Des fois, ça peut être... Alors, il y a beaucoup d'échanges avec le réalisateur et puis Léa. Et bien sûr, des sensibilités artistiques qu'on échange. Et des fois, ça peut vraiment se passer tout d'un coup, en repensant au scénario, en train de couper, préparer sa série. D'un coup, il y a un truc qui nous vient. Je me suis mis à un moment donné aussi sur le piano. J'ai dit, tiens, ça m'évoquerait pas mal, que m'évoque Shakespeare et tout, ce côté un peu mystérieux. Et des fois, ça peut vraiment venir comme ça. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, des fois, Léa, mais il y a des pulsions créatrices, des fois, qui se font comme ça sur l'instant. Et des fois, des choses qui germent beaucoup plus sur une sorte de ton long, avec des échanges. Ça peut être des fois un labeur positif, ou des fois très instinctif. C'est vraiment un mélange des deux. Et c'est pour ça que c'est un peu un mystère à la musique.
C'est un mystère, c'est vrai Léa?
Ah bah, c'est clairement un mystère, mais c'est ça qui est génial, c'est que vraiment on rentre dans le cerveau, à la fois de la réalisation, à la fois de l'histoire, du scénario, et il y a plusieurs étapes, et tout ça inspire plein de choses entre nous et toute la thématique du de... Et c'est ça qui est génial en fait dans la musique à l'image, c'est que du coup on a nos propres inspirations et on a aussi ce qui est imposé et ce qu'on voit et ce qui se crée, c'est génial quoi.
Est-ce que les deux personnages incarnés par Eric et Tiffen vous ont un peu inspiré en même temps à travers l'histoire un peu de ces deux personnes qui ont raté quelque chose à un moment donné, de cette policière qui veut absolument essayer de regagner ses jalons, et puis en même temps de Daniel qui essaye de se racheter une conduite en essayant de revenir sur le devant de la scène après y avoir été banni. Il faut dire que ces deux personnages là sont aux couleurs et puis rien n'est prédestiné en tout cas à enquêter ensemble pour retrouver ce tueur en série.
C'est vrai que nous on a un gros crush pour Tiffen parce que déjà on la connaissait pas. Non pas que on sous-estime Eric, loin de là, mais il y avait plus un côté mélancolique, quelque chose qu'on connaissait un petit peu plus sur l'image un peu le rôle de d'Eric, mais sur Tiffen déjà on a la découverte de cette actrice qui est dingue, et surtout elle a un espèce de peps permanent qui fait que du coup ça nous a vachement inspiré sur la musique. Donc clairement ils font l'identité de la série, hein, ça c'est sûr.
Ouais, bien sûr. Puis quand on les voit, il y a vraiment ce côté des fois, enfin je veux dire, Tiffen des fois elle impose quasiment elle-même la musique qui en découle. Des fois entre eux il y a un côté Tom et Jerry qui fait vraiment ce truc un peu chat et souris, et du coup c'était assez simple, enfin de par son jeu je trouve qu'il y a des choses assez évidentes qui sont imposées à nous dans des sonorités, dans des choses assez espiègles, et c'est assez délicieux à mettre.
C'est une expérience que vous avez envie de réitérer rapidement, justement, de faire de la bande son sur du cinéma, sur de la télé, sur de la série. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a vraiment plu et que vous avez envie de continuer?
Complètement. Mais justement, on a beaucoup travaillé pour faire en sorte que ça arrive. Maintenant, nous, on a envie de faire que ça. On aimerait à terme faire des films vraiment au cinéma, ou qu'on nous confie vraiment des projets encore plus dingues, même si c'est déjà une expérience folle. On enchaîne là, justement, avec Renaud sur un film qui sera diffusé sur France TV. Donc l'expérience continue. On a trop envie de ne faire que ça, quoi.
Alors, malgré tout, t'as mis 13 ans à sortir un nouvel album. Est-ce que le troisième mettra autant de temps, ou est-ce que t'as envie aussi en parallèle de développer ta musique?
Oui, clairement. De toute façon, comme tu l'as bien dit, j'ai mis 13 ans entre le premier et le deuxième. Il y a aussi quelque chose. C'était aussi un besoin d'offrir cet album aux gens qui attendaient, aux gens qui demandaient justement ce deuxième album, etc. Mais moi, je suis déjà dans une autre sphère, quoi. J'ai toujours aimé faire de la direction artistique, composer pour d'autres artistes, et là, composer sur des projets à l'image, c'est vraiment là où je me sens le mieux, quoi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de troisième album de prévu, clairement.
Après, il y a du travail entre les deux, hein, si j'ai bien compris, en tout cas.
Si vous tendez un peu l'oreille dans les BO, vous pourrez des fois entendre plus d'une fois la voix de Léa. Donc, finalement, ce sont des petits morceaux cachés, parce que c'est Léa est aussi un instrument vocal assez extraordinaire.
La voix est dingue, ça résonne évidemment. Alors, il y a quelque chose qui aurait dû nous mettre un peu la puce à l'oreille, Léa. C'est que quand on regarde tes clips, même à l'époque, il y avait déjà quelque chose un peu qui était de l'ordre du mini-film, quoi. Ouais. Un peu de vraiment du court-métrage, quoi, limite. Hein.
Ouais. Ça, après, pour le coup, c'est les clips en règle générale. On essaye de toujours un peu créer des histoires, etc. Mais oui, du coup, c'était une partie que j'aimais bien.
Il y a pas toujours ce travail de fait, justement. C'est pour ça qu'il faut le souligner quand même quand c'est fait.
Oui, c'est vrai. Mais après, là, pour le coup, le mérite vient au réalisateur avec qui je collabore. Mais c'est vrai que qu'on les choisit avec mes producteurs, etc. Mais ouais, après, pour le coup, le petit clin d'œil qu'il y a eu, genre, sur un peu le côté musique à l'image, c'est aussi la réalisation de ce dernier album d'il y a 3 ans que j'ai fait avec Johan, où justement on était déjà dans un schéma un peu cinématographique dans la musicalité, et donc ce qui nous a amené petit à petit au fait qu'on fasse ça aujourd'hui, quoi.
L'aventure Popstar a changé ta vie il y a 17 ans. L'émission va revenir bientôt sur Prime. Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui, aux jeunes chanteurs, aux jeunes artistes qui veulent y participer en tant que finaliste? Est-ce que tu as un petit conseil à leur donner là?
Je sais pas si j'ai de très bons conseils parce que j'avais un petit peu subi ce télécrochet parce que bon c'était aussi à une autre époque. Maintenant on est plus averti, on sait où on met les pieds. À l'époque c'était pas trop le cas.
Il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, il n'y avait pas autant de tout ça.
C'est ça. Donc du coup c'est le petit conseil, c'est de savoir où on met les pieds et de pas écouter ce qu'on dit, s'écouter soi et voilà savoir où aller. Et y croire, parce que franchement, ça fait 70% du travail hein, d'y croire.
Je crois en ses rêves. Ouais. Johan, Léa, merci d'avoir été avec nous. Murder Club, c'est cette semaine sur M6 la suite. Vous allez pouvoir découvrir le troisième et quatrième épisode et puis continuer à déguster la bande-son que nous ont concocté, en tout cas, Johan et Léa. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci infiniment.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on continue à parler de la série Dans l'ombre. Cette semaine, ça continue sur France 2. Vous allez découvrir le troisième et le quatrième épisode. Vous avez peut-être fait connaissance, en tout cas avec cette série, la semaine dernière. Si c'est pas le cas, vous avez toujours la plateforme France.tv pour pouvoir rattraper les deux premiers épisodes. En tout cas, c'est ce qu'on a découvert. Et on va continuer à en parler avec Clara Antons, qui est avec nous, que les fans de Candice Renoir connaissent bien pour avoir joué le rôle de la fille de Candice, et qui joue le rôle de Iris Francoeur, la fille, justement, de Paul Francoeur, qui est incarnée par Melville Poupeau. Bonjour Clara.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Baptiste Carion-Weiss qui est avec nous, qui joue Kalini, que vous avez découvert également la semaine dernière. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. J'avais envie de justement de vous avoir parce que je me suis dit, Clara notamment, comment interpréter la fille d'un politique qui a des vues très haute, très forte, qui gagne en plus ici à cette primaire, en tout cas de la droite, qui a des vues vers une élection présidentielle. Quand on est un peu justement sa fille, comment on vit tout ça? Comment on vit l'ascension politique? Comment tu t'es préparée, en tout cas, à incarner ça, Clara?
Eh bien, je crois que c'est un mélange. Enfin, c'est deux fois qui se rejoignent un peu à la fois quand on travaille pour quelqu'un et qu'on est à l'œuvre pour une primaire et donc tout le dévouement qu'on y met et celle pour un père quoi qu'on peut avoir. Donc, je me souviens quand on jouait les moments de résultats de primaire, il y avait quelque chose qui se produisait en moi de à la fois d'émotion et en même temps de fierté et qui était une fierté. Et ben à la fois de fille envers son père et en même temps de quelqu'un qui travaille pour une autre et qui touche du doigt une première réussite quoi.
Tu as pu rencontrer des enfants justement de personnalités politiques qui ont pu peut-être échanger sur leur expérience, sur comment ils ont vécu des fois l'ascension fulgurante?
Eh bien non, j'ai pas rencontré spécialement de personnes par rapport à ça. J'ai observé en fait, j'ai regardé des documentaires, j'ai regardé des discours, voir comment les gens autour se comportent, comment est-ce qu'on se tient. Mais en fait, c'est un peu difficile de trouver. Moi, au début, quand j'ai commencé la série, je voulais trouver des espèces de reportages dans les coulisses, quoi. Je trouve ça difficile à trouver. Justement, comme moi, je suis pas familière avec le milieu politique, j'avais très envie de voir d'autant plus. La fille d'un des candidats. J'avais envie de voir comment est-ce qu'on se tient, comment est-ce qu'on se parle, est-ce que c'est détendu, est-ce qu'on rigole, est-ce qu'on rigole pas.
Les obligations, le paraître, tout ça aussi.
Oui. Bah ouais. Et en fait, bah il y en a pas beaucoup. Donc on fait un peu à l'instinct. En fait, on fait avec ce qu'on se crée du personnage et de la situation.
On s'est embarqué peut-être par le metteur en scène aussi, par Pierre Scholler, et de la façon dont il peut diriger les choses.
Ouais, complètement. On se laisse embarquer par ça, par le réalisateur, par les autres comédiens aussi autour qui créent en même temps et du coup qui nous partagent des regards et des gestes et du coup on compose avec tout ça.
Baptiste, on va parler de Kalini. Alors, comment tu pourrais nous le définir, toi?
Kalini, c'est un jeune conseiller en politique assez ambitieux et neveu de ministre. Il se retrouve là parce qu'il en a envie, mais aussi un peu pistonné quand même. Et voilà, ouais, c'est un jeune loup politique qui a beaucoup d'ambition et qui essaye de faire à sa manière. En fait, son oncle était un ministre, donc effectivement, il connaît les sphères du pouvoir de par ce lien-là familial.
Et le personnage, pour le coup, du conseiller, on lui a un peu forcé la main, de toute façon, pour recruter Kalini.
Ben oui, c'est ça. C'est parce que le président du parti, en tout cas le personnage de Melville Poupeau, le candidat Paul Francoeur, connaissait très bien l'oncle de mon personnage, de Jérémy Kalini, et donc forcément, il a une place un peu dans son cœur. C'est un truc d'affect. Donc effectivement, et le personnage principal de la série qui est joué par Son Arlo, le personnage de César, est un peu contraint de faire une place à ce jeune
ce jeune loup
et qui a des méthodes qui lui plaisent pas trop, on va dire.
Oui, c'est vrai que ça lui plaît pas du tout hein, ce recrutement. On le sent, personnage de Swan.
Oui, il y a un peu d'arrivisme chez ce personnage de Kalini, et puis oui, il se sent un peu au-dessus de la mêlée, il a une espèce d'ambition, il se sent un peu au-dessus et du coup il vient déplacer les choses, mais le personnage de Swan, de César, a l'habitude de gérer les trucs, donc c'est un peu toujours un peu dérangeant de voir quelqu'un venir semer la zizanie dans son endroit, surtout pendant une campagne présidentielle où il y a quand même des responsabilités qui sont grandes.
Quand on voit un jeune loup comme ça un peu haut dans l'ongle, justement, il paraît que sur le tournage on t'a beaucoup appelé Gabriel.
C'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai, on m'appelait beaucoup Gabriel Attal. Les gens ont voulu voir une ressemblance entre mon physique et celui de Gabriel Attal.
C'est vrai qu'il y a un petit truc, hein, quand même.
Je le prends très mal. Non, mais.
J'ai dit un petit, hein.
Ouais, merci. Non, mais c'est vrai, oui, c'était la coupe de cheveux, et puis voilà, et les gens s'amusaient de ça, effectivement, ouais. Ça me faisait rire.
Clara, comment t'as vécu ce tournage, toi, en tout cas? Quels sont les meilleurs souvenirs que tu garderas? Est-ce que t'as appris des choses aussi? Par exemple, sur ce monde que tu connais pas forcément.
Qu'est-ce que je retiens, des rencontres vraiment géniales, quoi, avec des réalisateurs et des comédiens et une équipe aussi qui est, je crois qu'il y a, en plus, il y a une expérience humaine qui a été géniale et qui a vraiment fonctionné. On se voit encore pour ça, en tout cas, ouais, une vraie rencontre. Moi, c'était la première fois que je faisais un tournage aussi long aussi. D'un coup. Et c'était vraiment génial de pouvoir rentrer comme ça dans un projet et pendant autant de jours, et du coup de créer vraiment des liens et de sentir que le travail tourne et se met en place.
Il y a une émulsion, quoi.
Oui, voilà, et qu'il y a une émulsion qui se crée, et d'en faire partie, pour ça c'était vraiment super, ouais.
Une scène particulière, Baptiste?
Moi, la scène particulière, c'est celle que vous avez découvert la semaine dernière, pour les gens qui ont regardé la série. C'est cette scène où je saute dans la Seine, à Paris, et je tente de sauver ce garçon qui a été jeté. Voilà, c'était super à tourner. De vraiment devoir vraiment se jeter dans la Seine en plein Paris. On a tourné ça, il était peut-être 2h du matin.
Maintenant qu'elle est dépolluée, tout va bien.
Ouais, alors ce qui est assez fou quand même, c'est qu'on m'a dit il y aura pas de problème, on désinfectera après, il faut juste pas boire la tasse. Je n'ai fait que ça, boire la tasse. Et ce qui est fou, c'est que le lendemain ou le surlendemain, je vois un article arriver, je sais pas, je suis sur Facebook, je vois un truc arriver qui est: les tests de la Seine finalement ne sont pas concluants, on ne peut pas aller dedans et tout, alors qu'ils étaient en train de la dépolluer. Donc moi j'étais oh là là, mais qu'est-ce qui va m'arriver finalement?
C'est rien passé.
Finalement, il s'est rien passé. Donc Dieu merci. Vraiment, c'est un très bon souvenir. Avec la baston avant, on a vraiment travaillé les chorégraphies, fait tout ça, et puis ensuite de sauter, de nager. Vraiment, j'étais en train de nager au milieu de la Seine avec l'équipe sur un bateau en train de filmer. C'est quand même des moments qui sont exceptionnels.
Ouais. T'as tout donné, quoi. Pas de doublage. Ouais. Voilà.
Il y avait un doubleur qui était là pour le faire, et moi j'ai dit non, c'est moi qui fais, je veux le faire. Et du coup, voilà, il était un peu frustré, lui, mais moi j'ai dit non, je le fais.
Vos projets pour la suite, pour le coup, à tous les deux, est-ce qu'on va voir dans d'autres choses pour cette fin 2024-2025? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se dessinent où vous auriez tourné et qui n'ont peut-être pas été encore diffusées? Clara?
Eh bien, moi, à la télé ou au cinéma, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Mais fin 2024, début 2025, je vais rejouer une pièce au théâtre qu'on a commencé l'année dernière, qui s'appelle Les Fleurs de Maccabée, et qui est un polar théâtral de 9 heures. Voilà.
Bon courage.
Oui, moi je viens de terminer le tournage d'une série qui sera sur France TV / une série qui s'appelle Enjoy, qui est une série aussi assez politique finalement, où je joue un avocat, un avocat qui défend les livreurs à vélo pour qui livrent de la nourriture, ces gens qu'on appelle, voilà. Voilà, c'est un projet qui va sortir bientôt et dont je suis très fier.
Ben voilà. Merci beaucoup en tout cas, Baptiste, merci Clara d'avoir été avec nous dans l'ombre. C'est de retour cette semaine pour l'épisode 3 et 4 sur France 2. Merci d'avoir été là et on vous dit à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Inédit.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je sache? Tu sais tout ce que tu dois savoir.
Je veux qu'on parle de la seule chose qui compte vraiment.
C'est-à-dire?
Tu le sais très bien.
Pour la conquête du pouvoir, tous les coups sont permis, à condition qu'il reste dans l'ombre.
Votre série événement, bientôt sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré à Finalement, qui sortira le 13 novembre prochain sur vos écrans au cinéma. Et on a la grande chance d'avoir aujourd'hui Claude Lelouch qui est avec nous. Bonjour Claude.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Cad Merad également qui nous rejoint aujourd'hui, qui joue Lino. Bonjour Cad.
Bonjour monsieur, attendez, bonjour Alain.
Merci d'être là tous les deux. Exactement. Ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux parce que évidemment Claude, quand j'ai vu le film, ça m'a fait penser à l'aventure. C'est l'aventure. C'est vraiment pour moi un hommage au cinéma français, au cinéma que vous savez faire depuis maintenant plus de 50 ans. Et ça a été un grand plaisir en tout cas de voir ce film.
Non, j'ai essayé, avec le temps qui passe, de filmer ce temps qui passe, justement, et au fur et à mesure qu'on avance, on a envie de dire aux gens que la vie, c'est formidable et qu'il faut en profiter, voilà, même si elle est compliquée, même si les moments sont difficiles. Donc voilà, donc avec ce film, j'ai eu envie de filmer des parfums de liberté. C'est moments qui sont de plus en plus rares dans l'époque qu'on traverse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu cerné partout. Voilà, de tous les côtés, on a des contraintes, des règlements. Et donc, j'avais envie de retrouver ces parfums de vérité que j'ai retrouvés à travers certaines personnes qu'on croise dans la rue, et qui parlent tout seuls, qui, à un moment donné, n'ont plus de filtre et disent ce qu'ils pensent. Voilà. Et donc, j'avais envie de faire un film sur un homme qui a envie de dire ce qu'il pense. Voilà, et donc j'ai eu la chance de trouver un acteur merveilleux, Cad Merad, qui sait tout faire. C'est vraiment un 4x4 idéal pour moi, il est tout terrain. Et je suis très très heureux parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver l'acteur qu'il fallait pour ce film. Et voilà, alors on s'est amusé et j'espère que le film va être une belle récréation. Et en même temps, c'est un film qui parle des choses essentielles, c'est-à-dire... l'amour, l'amitié, la santé, la famille et l'argent. Et l'argent qui permet d'acheter en solde tout ça, voilà, de temps en temps. Voilà, donc on a essayé de faire un film qui donne envie aux gens de vivre, parce que c'est quand même le plus beau de tous les spectacles. La vie est un jeu extraordinaire, et il faut, comme dans tous les jeux, détecter les tricheurs. Voilà, donc on s'est amusé avec tous ces thèmes.
Et même avec en plus une belle morale, parce que même quand il nous arrive des choses super dures dans la vie, ben ça peut toujours créer des choses positives par la suite. C'est aussi cette positivité que cherche ce personnage de Lino, Cad, qui à la fois nous remplit de ce rêve de tout à chacun un jour d'être sans filtre et de dire à tout le monde ce qu'on pense vraiment.
Ben évidemment, ça c'est si on nous demandait quel est le pouvoir que vous aimeriez avoir, ça serait de pouvoir dire la vérité à tout le monde, à tout ce qu'on pense. Bah évidemment, déjà les pires choses, on se retient forcément. Mais oui, pour le personnage de Lino que j'incarne, évidemment c'est la base, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est au départ dans un confort de vie tout à fait agréable. On sent bien qu'il a une femme qui est actrice de cinéma, il a les moyens, il a une famille, un bel appartement, des repas de famille, et puis ça bascule. Parce que voilà, alors on suppose que c'est à la fois une maladie, une pathologie, et en même temps, je crois que c'est aussi une manière de claquer la porte et d'aller vers la liberté, vers quelque chose qu'on a tous peut-être, je crois, perdu un peu de vue. Ce non-filtre, finalement, c'est exactement ce que dit Claude, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on avait peut-être avant, mais qu'on a perdu, je crois, j'ai l'impression, hein, puisque maintenant on fait attention à ce qu'on dit maintenant. La moindre phrase peut-être reprise, sortie de son contexte, et va pas avoir le même impact selon la personne qui la diffuse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ça le filtre aujourd'hui. Moi, je vais pas faire le nostalgique, hein, mais c'est vrai que aujourd'hui, on a peur de s'exprimer, on a peur de donner son avis. Et dans le film, on montre que finalement, la liberté, c'est aussi de pouvoir dire ce qu'on pense aux gens, quels qu'ils soient d'ailleurs.
Alors c'est vraiment un circuit itinérant, hein, pour Lino qu'on va suivre, Claude, avec un tournage aux quatre coins de la France, hein.
Oui, alors j'avais très très envie de filmer la France parce que d'abord je voulais lui dire merci. Elle m'a permis de faire 51 films en toute liberté. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du monde plusieurs fois et j'ai pas trouvé un pays plus beau. Donc j'avais envie de lui rendre hommage avec Lino comme ça qui part au hasard, et j'ai voulu aussi montrer la force du hasard. Le hasard, il a de l'humour, hein, c'est un aventurier. Et il vous emmène toujours où votre intelligence n'aurait pas eu le culot d'aller. Vous voyez ce que je veux dire? Votre intelligence, elle a peur de tout. Alors que le hasard, lui, c'est vraiment un cascadeur. C'est un cascadeur et j'avais envie de montrer à quel point on se prive de plaisir en ne faisant pas confiance au hasard. Voilà. Il nous emmène toujours au bon endroit. C'était aussi un hommage au hasard.
Un casting de fou autour. Barbara Pravi, qui évidemment en plus nous fait le bonheur de chanter dans ce film. Mais à ses côtés, Elsa Zilberstein, il y a, je crois, votre petit-fils aussi, il me semble, Claude. Il y a un peu de famille aussi dans ce film.
Oui, j'ai mis mes enfants, mes petits-enfants, ma femme. Ils font de la figuration dans le film, un peu comme Hitchcock. Ils passent comme ça, mais... Comme je me suis dit, je suis en train de faire mes derniers films, enfin c'est un de mes derniers films, je me suis dit, tiens, j'ai envie de filmer tout le monde, voilà. Et non, puis surtout, j'ai pris des acteurs que j'admire, Sandrine Bonner, Michel Bougenat, Elsa, enfin je veux dire, et puis Françoise Fabian, qui est la maman de Lino, qui, c'est l'enfant qu'elle a eu avec Lino Ventura dans La Bonne Année. Voilà, donc j'avais envie de terminer L'Aventure, c'est l'Aventure et La Bonne Année, qui sont deux films qui ont laissé beaucoup de traces.
C'est clair, Cad, quel meilleur cadeau d'avoir Françoise Fabian comme maman.
Oui, bah oui, puis surtout c'est une femme délicieuse, extraordinaire, le même regard toujours sublime. Moi, j'ai à nouveau regardé La Bonne Année pour voir mes parents, parce que je suis censé être le fils de Lino Ventura et de Françoise Fabian, et j'ai observé vraiment ce couple. J'ai adoré ce film. Pour moi, c'est peut-être un des plus beaux de Claude. Il y en a plein, hein. Mais celui-ci, il a une saveur particulière. Alors évidemment, quand j'ai regardé, je me suis imaginé être le fils de Lino Ventura. Déjà, c'est une fierté quand même. C'est un honneur parce que quand même, Lino Ventura, ça fait partie de ces acteurs. Je crois que tout le monde adore, qu'on a adoré dans tout ce qu'il a fait. Côté un peu costaud, sympathique, un peu tendre quand même. Et dans ce film, d'ailleurs, dans La Bonne Année, c'est rare, mais on le voit sourire d'une manière qu'on l'a peut-être jamais vu ailleurs. Et ça, Claude est fort quand même, parce que moi, j'ai dit hier, pendant une projection, j'ai dit qu'il m'avait rendu beau, Claude. Mais ça veut dire, en fait, je pense qu'il a un truc, Claude, je sais pas comment il fait. On m'avait prévenu, on m'a dit, tu vas voir, tu seras jamais aussi bien que quand tu es filmé par Claude Lelouch. Je parle physiquement presque, parce qu'il a une manière de vous filmer, comme il a filmé Lino Ventura. Et je trouve que la filiation fonctionne bien. Et c'est vrai que je me suis inspiré quand même de Lino Ventura. J'y ai pensé. Ce qui est fou, c'est que j'ai pensé à lui, sans l'imiter, bien sûr. J'ai fait 2-3 trucs, mais peut-être personne l'a vu. J'ai un peu pincé le nez comme ça, comme il faisait dans certains films. Mais je sais pas si on le remarque vraiment. Mais en tout cas, j'avais ça en tête. Et Françoise, à mes côtés, incroyable, 91 ans, une femme qui est vraiment délicieuse. Et il y a une jeune fille aussi qui est formidable, c'est Françoise Gillard, que vous ne connaissez pas encore, qui est de la Comédie Française et qui joue cette jeune femme que j'encontre à la ferme, qui est aussi une lumière dans le film et qui apporte aussi beaucoup de vérité. Et voilà, faut pas l'oublier, cette Françoise.
Il y en a plein, et je pense à Bruce Toussaint, qui est totalement inattendu aussi. Il y a plein de clins d'œil aussi dans ce film. Finalement, ça sort le 13 novembre au cinéma, on écoute la bande-annonce et on revient juste après avec vous deux. À tout de suite.
Et voilà, prochainement sur cet écran, le nouveau film de Claude Lelouch, le 51e. Finalement. Oui, ça, c'est le titre du film, finalement. C'est un beau titre, hein. Finalement. Alors, comme il y a plein de surprises, il y en a tellement des surprises dans le film qu'on a décidé de rien vous montrer. Enfin, à part moi, bien sûr. Mais bon, je suis pas tout seul. Évidemment, Elsa Zilberstein, Françoise Fabian, Barbara Pravi, Sandrine Bonner, Michel Bougenat, Françoise Gillard. Et je pourrais continuer comme ça jusqu'à... Et puis la musique, Ibrahim Malouf, les paroles, Didier Barbelivien. Je crois que j'ai tout dit. Il n'y a plus qu'à regarder.
C'est l'histoire d'un vieux piano tombé amoureux d'une trompette.
À bientôt!
Allez, la suite dans un instant. Claude Lelouch et Cad Merad restent avec nous. On marque une petite pause et on revient juste après ça. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé. C'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Give me the feeling again, just one more time.
tous les bonus audio et vidéos de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Finalement, le film à ne pas rater de ce mois de novembre, Claude Lelouch et Kad Merad sont avec nous pour en parler. Claude, vous disiez tout à l'heure que vous aviez envie de remercier la France à travers ce tournage un peu itinérant, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que c'est la France qui doit vous dire merci à travers tous ces films, à travers toute cette épopée aujourd'hui? Il y a un réalisateur aujourd'hui français, s'il doit y avoir évidemment ces films, il y en a Claude Chabrol, Claude Lelouch, mais vous faites partie du patrimoine cinématographique aujourd'hui.
Oui, j'ai eu la chance pendant 60 ans d'accompagner mon époque. Donc j'ai essayé pendant ces 60 ans de filmer des hommes et des femmes que j'avais envie d'avoir pour amis ou de prendre dans mes bras. J'ai essayé de filmer des hommes et des femmes qui étaient un peu moins dégueulasses que les autres et puis qui avaient certain courage, voilà, qui avaient certain courage, qui ont fait des choses incroyables. Vous savez, quand on a commencé à travailler avec Kad, je lui ai dit, tu sais, c'est un mélange de Lino Ventura et de Charlie Chaplin. Il y a un côté vagabond que j'aime beaucoup chez Charlot. Le mélange des deux a créé le personnage de Lino. Alors, vous savez, la France, c'est un pays où tout le monde veut commander et où personne veut obéir. Alors moi, ça me plaît assez. J'ai toujours pu rebondir et puis on peut tout faire en France. Même les interdits sont pas si gênants que ça. On peut toujours les contourner. On peut toujours marcher en dehors des clous. Voilà. Et ce pays-là me plaît pour ça. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'avec finalement, avec ce personnage de Lino, je me sens très concerné par ce personnage. J'ai souvent envie de claquer la porte et d'aller vers l'imprévu, vers cette liberté qui fait qu'à un moment donné, on arrive à se retrouver, on arrive à se parler à soi-même, on arrive à faire un séminaire avec soi-même. Voilà, c'est très important à un moment donné de s'aimer. Il faut qu'on puisse s'aimer. Je veux dire que le bonheur passe par l'amour de soi-même. Et Lino, comme ça, se redécouvre. À un moment donné, il s'est perdu.
Ah, c'est une quête de soi, oui, ça c'est sûr.
Il se perd et avec ce voyage, il se retrouve.
On a pu croiser quelques comédiens pendant un festival justement dans le sud il y a un an et demi quasiment pendant que vous tourniez du côté de Béziers, c'était le cas de Julie Ferrier, Michel Boujna, et ils nous ont confié « Je vais tourner demain avec Claude Lelouch, c'est une fierté mais tellement immense, mais je ne sais pas ce que je vais faire. J'arrive sur un tournage où je vais avoir le patron qui va être là et qui va dire « bah vas-y, improvise ». Est-ce que c'est le cas aussi quand on est sur tous les plans où il y a quand même peut-être une petite lumière scénaristique qui t'a guidé, Kad ?
Non, mais pour être très transparent, il y a un scénario. En tout cas, moi j'ai eu dans les mains le film, pratiquement tel que vous le voyez. Après, il y a les astuces de montage et de narration qui sont un peu différentes. Parce que ça, c'est tout le talent aussi de Claude. Mais le film, moi, je l'ai lu. J'ai eu même à choisir le personnage, puisqu'il y avait... Claude m'a dit, voilà, je te propose, il y a deux rôles. Choisis lequel? Évidemment, j'ai choisi...
Lino.
Oui, mais surtout, vous savez, souvent, quand vous devez refuser un film, vous dites souvent, je me vois pas dedans. Mais c'est une vérité. Là, j'ai immédiatement... C'est une rencontre pour moi entre un personnage et moi. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup dans votre carrière des films où vous rencontrez un personnage qui est évident pour vous. Je dis pas que j'étais capable de le faire, c'est que je le ressentais à chaque page, à chaque séquence. Je connaissais pas Claude, moi je savais pas comment il travaillait. On m'avait prévenu, on m'a dit tu vas voir, c'est extraordinaire. Tu vas vivre le plus beau tournage de ta vie, de ta carrière. J'en ai fait des tournages quand même, c'est pas le premier. Et c'est vrai qu'il y a un truc avec Claude qui est unique. Voilà, je sais pas, c'est indescriptible. J'avais un scénario. Alors évidemment, il y a les figures imposées qui sont écrites, mais par contre, vous avez, et c'est vrai, c'est une vérité, vous avez aussi des moments où il y a une totale liberté, vous pouvez improviser, et surtout, de temps en temps, Claude vous souffle des répliques, qu'il vous dit à l'oreille, vous savez, comme Cyrano de Bergerac, un peu, vous voyez, il vous souffle des répliques, alors, vous les dites, évidemment, dans la peau du personnage, mais ça, c'est assez unique, ça. Et c'est ça la patte Claude Lelouch, moi je trouve, c'est qu'il y a le scénario, puis après il y a sa folie. Mais c'est toujours Claude derrière. Moi j'invente rien, moi j'ai essayé. Alors j'ai proposé évidemment deux trois petites choses parce que je suis assez gourmand, puis j'adore mon métier. Mais en général, c'est quand même toujours Claude qui vous dit, même si c'est improvisé, c'est dans son cerveau à lui et ça ressort. À vous d'essayer de le livrer le plus juste possible. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable et que les autres comédiens connaissaient pas le scénar, c'est vrai. Michel Boujna ne savait pas ce qu'il faisait. Le matin même, il m'a dit, je sais pas ce qu'on tourne. Je dis, moi je sais.
Moi, parfois, c'est ce qui les excitait le plus.
Mais c'est ce qui donne aussi cette vérité quand même. C'est presque des comédiens amateurs, finalement. Tout d'un coup, hein, Claude, ils arrivent, c'est une fraîcheur absolue. Quand vous avez trop à réfléchir sur ce que vous devez faire, ça devient un peu pénible. Moi, je suis un spontané, je suis un instinctif. Le cinéma de Claude, ça me convient parfaitement.
Claude, c'est cette volonté, justement, d'avoir cette fraîcheur, d'avoir cette spontanéité intacte.
Je me donne beaucoup de mal pour que mes acteurs ne fassent pas de cinéma. Ça paraît idiot, vous voyez ce que je veux dire. Mais je me donne beaucoup de mal pour qu'ils ressemblent aux gens de la rue. Et les gens de la rue, ils en font pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils connaissent pas la date de leur mort. Ils savent pas à quel moment on va leur dire stop ou encore. Et la vie, c'est ça. Dans un scénario, si vous avez lu tout le scénario, vous savez quand on vous dit stop, encore, voilà. Et pour tous les personnages du film, de temps en temps, il y a certaines informations importantes que je veux protéger. Et ça, j'ai commencé ça avec un homme et une femme. Quand un autre aimé descendait sur le quai de la gare, elle savait pas si elle ou, si Jean-Louis allait l'attendre ou pas. Quand Annie Girardot attend Belmondo à l'aéroport de Nice, elle sait pas s'il va descendre de l'avion ou pas. Bon. Et on joue pas les choses de la même façon. Si vous connaissiez la date de votre mort, vous seriez peut-être pas en train de m'interviewer. Non. Vous diriez, j'ai peut-être autre chose à faire, quoi. Voilà. Exactement. Et donc, si vous voulez, c'est ce grand suspense de la vie que j'essaye de semer. Évidemment, j'ai besoin de ma colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est CAD. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'il sache un certain nombre de choses. Mais il a découvert pas mal de répliques pendant les prises. Je lui ai soufflé deux, trois trucs pendant les prises qui n'étaient pas dans le scénario et qui ont une spontanéité. Vous savez, j'aimerais qu'on dise que j'étais le metteur en scène de la spontanéité. Personne ne détient la vérité. La spontanéité, c'est un mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Voilà. Et quand on est spontané, on accepte tout. Et CAD a cet art extraordinaire d'être spontané. Il joue avec la spontanéité, comme le faisait Belmondo, Trintignant. Enfin, quand CAD arrive dans ma vie, la barre est haute, vous voyez. Et il a encore réussi à m'épater. Voilà.
On peut espérer une suite, je sais pas, il y a eu une image, moi, qui va frapper à un moment donné, pas loin de la fin du film, qui nous laisse peut-être envisager de retrouver Lino à un moment donné.
J'espère, ça va dépendre du public. Si le public en redemande, je suis là. Et si le public fait la gueule, ben, je m'arrêterai là. Voilà.
Et ben pour pas que Claude Lelouch s'arrête là, allez voir finalement le 13 novembre au cinéma. Merci beaucoup Cad, merci Claude d'avoir été avec nous et d'avoir passé ce moment avec nous. Et ne ratez pas ce film au cinéma si vous voulez voir la suite, vous voyez, Claude vous l'a dit. Et puis restez bien, parce qu'à la fin du générique, vous aurez une image très émouvante qui vous attend. Mais pour ça, il faudra rester jusqu'à la fin du film, et fin de générique compris. Merci Claude, merci Cad. Merci beaucoup.
C'est bien de répéter ça, il faut toujours récompenser les gens qui restent jusqu'à la fin du générique.
Bah oui.
Merci Cad.
Idem. Il m'a accueilli.
Chute, on écoute la télé, spécial festival.
Allez, on va terminer comme chaque année maintenant, début novembre, avec Christelle Oscar, qui est la directrice artistique du festival de Sarlat. 33e édition qui démarre demain du côté du Périgord Noir. Christelle est avec nous. Bonjour Christelle.
Bonjour Alain.
On a déjà hâte de te retrouver avec cette très belle sélection 2024 qui nous attend. On va pouvoir découvrir encore une fois une belle semaine du cinéma du côté du Périgord Noir, avec une sélection que tu nous as mijotée aux petits oignons.
Oui, tout à fait. Avec 6 films en sélection officielle et puis un petit peu comme tous les ans maintenant, une quarantaine de films dans les sélections Tour du Monde, Jeunes Regards, dans les séances spéciales. Deux séances jeunes publics également. De quoi s'occuper du mardi au samedi.
Alors il faut dire aussi Christelle quand même que le festival du film de Sarlat a quelque chose de très particulier, c'est qu'il fait la part très belle aux lycéens et qu'aujourd'hui c'est un peu les piliers de ce festival depuis le début. Combien ils sont encore cette année à venir?
Ils sont un petit peu moins de 600 avec leurs professeurs, donc de quoi remplir la grande et belle salle du centre culturel de Sarlat, qui est le lieu qui héberge la plupart des projections qui leur sont destinées.
Alors, il y a plusieurs, effectivement, sections. On a la sélection officielle, bien évidemment, avec une remise de prix qui aura lieu samedi soir. On a une sélection Tour du Monde qui nous permet de faire de très belles découvertes. Une sélection Jeunes Regards aussi. La sélection Jeunes Regards, c'est souvent de nouveaux réalisateurs ou c'est même souvent des premiers films, hein.
C'est très souvent des premiers films. C'est pas la condition sine qua non hein, pour figurer dans cette sélection, mais bien souvent oui, parce que c'est un petit espace où j'aime bien proposer des regards singuliers, des films de genre également, ou bien pour des auteurs qui n'en sont pas à leur premier coup, comme c'est le cas par exemple pour Frédéric Farrucci avec Le Mohican. C'est pour moi des films qui sortent un petit peu des clous et qui nécessitent voilà un autre
un autre enrobage, si je puis dire.
Alors, parmi la sélection officielle, on va découvrir en ouverture demain soir leurs enfants après eux, que l'on va pouvoir voir donc en avant-première. Dans cette sélection, on va découvrir Rabia, Planète B, les reines du drame. On va avoir Joué avec le feu et puis Bonjour l'asile de Judith Davis également. Toi, je crois que tu as eu déjà quelques gros coups de cœur hein, dans cette sélection officielle.
On peut même dire, ce sont tous des coups de cœur pour des raisons différentes, mais temporellement, je pense que mon premier coup de cœur a été Planète B, parce que c'est celui que j'ai vu la première fois et je suis un peu tombée de ma chaise. J'ai vu une proposition tellement osée, tellement culottée, avec des héroïnes qu'on voit pas, qu'on n'a peut-être même encore jamais vu sous cet angle. C'est un film d'anticipation qui déplace un peu le regard sur 2039, donc c'est dans pas si longtemps. Donc il y a quelque chose, un espèce de constat politique un peu glaçant. Tout ça fonctionne très très bien dans un genre qui approcherait de la science-fiction sans en être complètement, parce que ça reste quand même une réalité. Puis il y a eu évidemment Leurs enfants après eux, qui s'est un peu imposé comme le film qui pourrait caractériser à la perfection le festival de Sarlat, c'est-à-dire que c'est un film qui peut toucher tous les publics, qui traite de l'adolescence, qui traite de jeunesse, mais qui parle à chacun d'entre nous, toute génération confondue. Et puis par la suite, j'ai découvert avec un grand plaisir Rabia, qui a la particularité d'avoir été tourné à Sarlat, dans les studios France Tabac.
Et oui, c'est aussi
un des premiers films tournés dans ce studio, enfin dans ce projet d'ampleur qui est en train d'émerger là-bas. Donc il s'agira de studios de tournage, mais également d'un centre de formation pour les métiers techniques du cinéma. Ce sera également une recyclerie pour les décors. Tout ça sera un cercle très très vertueux autour des métiers techniques du cinéma.
Alors il y aura des séances spéciales aussi, Christelle, hein, puisqu'on va avoir oui. Enfant phare, qui sortira le 27 novembre. Il sera présenté en avant-première. C'est le nouveau film d'Emmanuel Courcol, qui est toujours un petit peu un événement, qui vont voir justement deux frères se découvrir en les personnes de Pierre Lottin et Benjamin Laverne, qui les incarnent à merveille. Évidemment, très joli film musical qu'on va découvrir en séance spéciale. Et puis le film d'animation de Michel Azanavicius aussi.
Oui, La plus précieuse des marchandises, qui sera accompagné par le producteur Patrick Sobelman, qui est un grand producteur, qui est à l'initiative aussi de ce projet. Donc ce sera intéressant d'avoir son regard sur la naissance de ce film, qui est quand même assez singulier et très différent de ce que fait Michel Azanavicius
habituellement.
En temps normal. Donc ouais. C'est ouais, exactement.
Ah, il y aura aussi le nouveau film de Karine Tardieu, Après du vent dans mes mollets, ou encore le dernier film avec Melville Poupeau qu'elle a pu faire. On va découvrir L'attachement, oui, ce coup-ci, à Sarlat, en avant-première.
Hein. Ah oui, un très très beau film dans la veine de ce qu'elle fait, c'est-à-dire un film populaire, mais dans le bon sens du terme. Enfin, c'est un film qui parle à tous, qui est proche des gens, qui va dans l'intime, qui est assez ample. C'est vrai qu'elle a ce talent, Karine Tardieu, pour créer des personnages absolument touchants, réalistes, et à faire des histoires universelles. Et celle-là, elle est particulièrement.
Alors, bien sûr, aussi, il y aura les courts-métrages, les sélections du bac, la sélection jeune public aussi. Il va y en avoir pour tous les goûts et tous les âges. Nous, on vous invite à découvrir en tout cas déjà le programme sur festivaldufilmdesarlat.com. Christelle, on va aller te rejoindre dès demain pour faire vivre en tout cas déjà sur nos réseaux sociaux toute cette belle édition qui nous attend jusqu'à samedi en ta compagnie. On va te remercier infiniment. Nous, on va prendre la route demain matin pour venir te rejoindre du côté de Sarlat. Et puis, on te souhaite,
attention.
Tout cas. Oui, écoute, il va faire beau, j'espère.
Oui, ça s'annonce grand beau.
Bon, et ben on va en profiter en tout cas. Allez, on prend la route, on vous rejoint demain du côté du Périgord noir. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir été avec nous.
Merci Alain, à demain.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, ça sera l'événement avec le grand lancement de la série Cat's Eyes. Le créateur Michel Katz, Alexandre Laurent, le réalisateur, et nos trois Cat's Eyes seront avec nous. Pour notre plus grand plaisir, Constance Labbé, Camille Lou et Claire Romain seront là, bien sûr. Et puis on va parler aussi du film de Jennifer de Wolder, Le Panache. Elle sera avec nous, accompagnée de José Garcia. Oui, vous ne rêvez pas, pour le 11 novembre.
Le rendez-vous des stars.
C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chut, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.